spécialement à Michel Rioux qui m'accueille, qui m'a invitée. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc je suis là pour comparer les régionalismes Union européenne et puis régionalisme nord-américain, on va présenter les choses comme ça, sur la dimension sociale. Donc il n'est pas concevable pour les grandes puissances commerciales de paraître en retrait sur la thématique sociale parce que ça tend vraiment à devenir un marqueur des relations extérieures. À cet égard, on a beaucoup parlé de l'ANACT, on va en reparler ensemble, et qui a proposé en termes inédits un modèle américain de clause sociale particulièrement abouti. Ces démarches faisant écho aux tentatives parallèles de la part de l'Union européenne de promouvoir une dimension sociale dans ses accords externes. Le contenu des clauses sociales européennes, de façon générale, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire que les accords externes de l'Union sont structurés différemment selon l'identité du ou des pays co-contractants. Certains accords, vous le savez, ne renferment aucune disposition relative au travail, par exemple avec les pays de la ELE, les pays d'Asie du Sud-Est, ou encore avec la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Certains accords externes de l'Union se contentent de consacrer des dispositions peu contraignantes à la coopération sociale, je pense à l'accord signé avec l'Irak en 2012, ou au développement social et à la cohésion sociale. Je pense ici à l'accord d'association de 2012 avec l'Amérique centrale. Cependant, une majorité des accords externes de l'Union aujourd'hui, signés par l'Union et ses États membres, dédient un chapitre assez ambitieux au développement durable, qui comprend donc au minimum une clause sociale. L'Union européenne et l'ALENA ont apporté des solutions en partie différentes à des problématiques sociales communes aux deux organisations d'intégration. La clause sociale qui est intégrée dans les accords nord-américains et européens peut-elle se prêter à l'affirmation d'un standard normatif transatlantique ? C'est à cette question que je voudrais essayer de répondre avec une étude comparative qui sera menée en s'intéressant d'abord au contenu des clauses sociales et puis dans un deuxième temps à la mise en œuvre de ces clauses sociales. D'abord, première partie sur le contenu des clauses sociales dans les accords externes de l'Union. C'est un contenu inégal et très différencié. L'ANACT, je trouve ce qui est intéressant dans l'ANACT, c'est que c'est vraiment l'archétype de la clause sociale nord-américaine, c'est-à-dire qu'on dresse une liste de 11 principes du droit du travail que les parties s'engagent à respecter dans leurs droits internes. Cette liste, elle se révèle assez exigeante, le professeur Weiss en parlait tout à l'heure. C'est une liste exigeante, je trouve, parce que on vise des thèmes souvent négligés par le droit social international, tels que les horaires de travail, la santé au travail ou le traitement des travailleurs migrants. L'Union, à sa manière, elle a un petit peu expérimenté la voie ouverte par l'ANACT, qui consiste à lutter contre les effets dommageables de la concurrence normative entre les États par le biais, non pas de règles de droit social international, mais des règles de droit social interne. La directive européenne de 1996 relative au détachement des travailleurs s'est précisément attachée à circonscrire, à limiter le domaine de la concurrence déloyale qui peut être admis entre les États membres dans le cadre du développement des prestations de services. Cette directive détachement des travailleurs, elle impose une protection par l'employeur de certains aspects du droit social de l'État membre d'exécution de la prestation, concernant par exemple les congés payés, la durée du travail, le taux de salaire minimum ou la protection des femmes enceintes. Un tel mécanisme de coordination qui touche à l'application des droits du travail nationaux rappelle de manière assez troublante, je trouve, le dispositif de l'ANACT. Hors du champ des règles de coordination des droits sociaux des États membres, l'Union a forgé, vous le savez, un ensemble assez impressionnant de prescriptions sociales minimales dont la richesse et l'ampleur ne se reflètent absolument pas à l'externe, dans le contenu des clauses sociales. Il est surprenant de constater que les domaines d'élection du rapprochement des législations des États membres en matière sociale ne coïncident pas du tout avec le périmètre très restreint des droits sociaux fondamentaux qui sont mis en avant par l'Union dans le contexte de la promotion de ces clauses sociales. Par exemple, sur le plan du droit interne à l'Union européenne, plus de 35 directives sociales ont été adoptées en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Sur le plan externe, l'Union plébiscite, vous le savez, dans ses clauses sociales, renvoie à la déclaration de l'OIT de 1998 qui est relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Or, ces déclarations de l'OIT se concentrent sur simplement quatre droits fondamentaux au travail qui doivent faire l'objet d'une protection particulière. Mais ce texte n'inclut pas, justement, des droits relevant de la santé et de la sécurité au travail. Or, on l'a vu l'année dernière, les accidents industriels meurtriers qui ont eu lieu au Bangladesh nous rappellent pourtant à quel point les règles de sécurité au travail sont essentielles pour les travailleurs des pays en développement. Et les accords externes de l'Union n'en parlent absolument pas au niveau des clauses sociales, il faut le souligner. Par ailleurs, même si de façon formelle, l'Union défend une conception indivisible des droits de l'homme, en incluant donc les droits sociaux, l'examen de l'agencement des dispositions, des accords commerciaux, laisse entrevoir une hiérarchisation implicite des droits de l'homme. On le sait, l'Union est très attachée, depuis l'accord de Lomé IV en 1989, à cette fameuse clause standard sur le sujet des droits de l'homme et de la démocratie. C'est un élément essentiel des accords commerciaux et sectoriels signés par l'Union et ses États membres. Mais cette clause droits de l'homme, qui est consacrée aux droits humains fondamentaux et aux principes démocratiques, elle ne vise pas expressément les droits fondamentaux au travail. D'ailleurs, dans le contexte des accords de Lomé, qui incorpore sans doute un des mécanismes de garantie collective des droits de l'homme les plus poussés pour les États partis à l'accord, l'Union n'a jamais suspendu ses aides au développement à destination d'un pays ACP, un pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour violation des normes fondamentales du travail. Le Conseil de l'Union suspend parfois un programme du Fonds européen au développement, le FED, mais en appliquant la clause de suspension aux droits de l'homme inscrite dans l'accord sans jamais se référer aux droits fondamentaux au travail. Et de façon constante, la Commission européenne laisse entendre, sans rien démontrer à mon avis, que les droits protégés par la clause droits de l'homme recouvrent les droits inscrits dans la clause sociale. Pour autant, on a une dissociation très nette. Dans le cadre du schéma du double accord lié inauguré avec l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée, ce schéma du double accord lié il est reproduit avec l'accord Union européenne-Canada, une dissociation très nette entre la clause droits de l'homme et l'accord cadre politique. La clause droits de l'homme que l'on trouve dans l'accord cadre politique et la clause sociale qui est insérée dans un chapitre commerce et développement durable que l'on trouve dans le cadre de l'ALE, l'accord de libre-échange. Une convergence transatlantique autour du contenu des clauses sociales est-elle possible? Peut-être pourrait-elle s'esquisser à l'avenir, parce que le contexte a évolué depuis l'ANACT. Le contexte a beaucoup évolué. L'ANACT ne visait qu'une coopération entre les États parties sans pointer une responsabilisation possible des entreprises à travers leurs activités sociales. Les États nord-américains comme l'Union promeuvent désormais dans différentes instances internationales la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Pendant longtemps, l'Union n'a guère été à l'offensive sur le thème de la RSE en choisissant une conception délibérative de la responsabilité sociale des entreprises qui interdisait d'établir sur son fondement un socle minimal et protecteur de règles sociales. Mais la stratégie de la Commission européenne en matière de RSE a évolué depuis l'année dernière, il me semble. En témoigne l'année dernière la proposition de révision des directives comptables européennes qui imposerait aux sociétés cotées et non cotées la publication d'un plus grand nombre de données sociales et relatives aux droits de l'homme. En témoigne aussi la multiplication des clauses RSE que l'on trouve de plus en plus souvent dans les accords externes de l'Union, à compter de l'accord entre l'Union et la Corée du Sud signé en 2009. Une clause RSE fédérant les attentes nord-américaines et européennes pourrait donc, par exemple, comporter une obligation pour les entreprises de publier régulièrement leur bilan en matière de RSE. On se souvient que la partie 4 de l'ALENA, on en a beaucoup parlé hier notamment dans le cadre de ces travaux, la partie 4 de l'ALENA, par l'étendue de ses dispositions dédiées au marché public, avait fait en partie l'originalité et la force de l'accord d'intégration. À cet égard, le droit des marchés publics pourrait fort bien favoriser les entreprises prenant des engagements au titre de la RSE. Sauf que les modalités pour prendre en considération les exigences sociales dans les documents de marché sont très étroitement encadrées par les règles européennes, notamment en vigueur. Pourtant, en lien avec les clauses sociales, ce thème est central, je pense, dans la stratégie de l'Union européenne d'accès aux marchés tiers et de lever des obstacles non tarifaires au commerce. À l'avenir, la Commission européenne devra s'efforcer de faire du droit des marchés publics un garant efficace du respect des normes internationales du travail. L'enjeu est de taille, parce qu'on l'a déjà dit, les marchés publics européens, ils sont très exposés à la concurrence internationale, avec cette question liée portant sur l'équité des salaires pratiquée par les prestataires et par les sous-traitants. Il y a 2 mois, au Parlement européen, on a examiné la proposition de réglementation européenne concernant l'accès des produits et des services des pays tiers au marché public de l'Union. Et les députés européens ont plaidé pour que le non-respect des normes internationales de travail soit considéré comme une pratique déloyale, entraînant pour les pays tiers, dont sont issus les soumissionnaires, le risque d'être exclus de l'accès au marché européen. Dans ma deuxième partie, je vais revenir sur la mise en œuvre des clauses sociales au niveau des accords externes de l'Union. L'approche de l'Union, c'est une approche incitative uniquement, une approche que je qualifierais de légaliste. D'abord, l'Union a rejeté un système coercitif fondé sur des sanctions. On a beaucoup parlé de l'ANACT et il me semble que l'ANACT a un caractère précurseur parce qu'on a proposé une lecture potentiellement répressive des violations les plus graves et systématiques des droits internes du travail dans les 3 États de l'ALENA avec des pénalités financières et éventuellement l'infliction de sanctions commerciales au terme de l'utilisation d'un mécanisme de règlement des différends dédié à la matière sociale dont l'applicabilité est, c'est vrai, assez limitée. Mais au moins ce mécanisme existe. la possibilité même dans le cadre de l'ANACT de demander pour une partie la constitution d'un comité évaluatif d'experts tranche avec la prudence des accords européens sur le traitement contentieux des thématiques sociales. En effet, les accords européens ne mettent pas en place de groupes d'experts indépendants appelés à juger du respect de leurs obligations sociales pour les parties contractantes. La réunion de comités d'experts est parfois prévue dans les accords externes européens, mais leur rôle est strictement cantonné à la rédaction de rapports, de recommandations qui sont ensuite remis aux autorités intergouvernementales. Au-delà de son refus d'envisager toute forme de mécanisme de règlement des différends liés au travail, l'Union milite pour l'inclusion d'une clause standard droits de l'homme. Mais la difficulté réside sans doute dans l'absence de clarté de cette clause de non-exécution, les accords européens ne définissant pas avec précision les hypothèses dans lesquelles on pourrait convenir de mesures restrictives. L'Union a toujours privilégié la voie du dialogue et des consultations lorsque la clause droits de l'homme a été invoquée. Rares ont été les accords de l'Union suspendus explicitement en vertu d'une violation de la clause droits de l'homme. Je pense à la suspension partielle de l'accord avec l'Ouzbékistan en 2005. Plus récemment, les clauses droits de l'homme insérées dans les accords avec la Tunisie ou l'Égypte n'ont pas été activées malgré les événements très graves qui ont affecté les États du monde arabe. Par ailleurs, ce qui me semble inquiétant comme évolution, c'est le fait que l'Union tende à abandonner l'exigence de conditionnalité qui a fait la force depuis 1971 de son régime général du système de préférence généralisée, le régime SPG, et de sa variante emblématique, le SPG+. Le SPG+, c'est en effet un régime spécial qui accorde des préférences tarifaires additionnelles aux pays en développement qualifiés de vulnérables, qui s'engagent à ratifier, puis à assurer, le respect de 15 conventions internationales de l'ONU ou de l'OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs. L'éligibilité d'un État au régime SPG+, a été parfois remise en cause. La Birmanie, pour avoir transgressé les normes internationales sur le travail forcé, le Bélarus pour manquement à la protection des travailleurs en 2010, et le Sri Lanka, mais là c'était pour violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le contexte de libéralisation généralisée du commerce international, les préférences du SPG+, sont soumises à une érosion inéluctable et continue. Ce régime a vocation à s'appliquer à un cercle d'États éligibles, plus restreint au fil des années. Le contenu de l'accord entre l'Union européenne et le Pérou et la Colombie, par exemple, de 2012, traduit très bien, à mon sens, la perte par l'Union de tout levier de conditionnalité permettant d'encourager ces pays tiers à respecter les droits sociaux une fois que le régime SPG+, et le régime SPG sont éteints. La Commission considère que l'article 1er de ces accords, relatif à la clause droits de l'homme, l'article 1er de ces accords prend efficacement le relais de la conditionnalité issue du SPG+. Cependant, la clause sociale insérée dans l'accord avec la Colombie et le Pérou n'impose à ces deux pays que des engagements très faibles, voire ténus. L'ALE, Union européenne, Colombie et Pérou, ne prévoit même pas que ces deux pays soient astreints à un processus de ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Et puis, le dernier point que j'aborderai, c'est le fait qu'au niveau des accords externes de l'Union, on a des garanties procédurales modestes et qui sont vraiment déconnectées des attentes des travailleurs. L'une des originalités de l'ANACT résidait dans l'établissement entre les États partenaires de garanties procédurales exigeantes et communes, notamment en termes d'accès aux tribunaux ou la mise en place des bureaux administratifs nationaux. Les accords externes de l'Union ont pris un petit peu c'est le cas de l'ANACT en modèle, parce qu'on a aménagé des structures destinées à favoriser une coopération sur le volet social, soit un comité commerce et développement ou un sous-comité sur le développement durable. Mais les travaux de ces comités ne donnent pas lieu à une publicité adéquate. C'est très compliqué d'y avoir accès. Les accords externes de l'Union promeuvent aussi l'institution de fora consacrés au dialogue avec la société civile. Mais le traitement des plaintes émanant de la société civile n'est jamais envisagé dans les accords externes de l'Union, alors que cette perspective conférait une bien plus grande efficacité à la clause sociale. Les procédures prévues dans l'ANACT ont eu le mérite de susciter, dans le champ informel, la mobilisation d'organisations syndicales et de coalitions transnationales. A l'inverse, les clauses sociales négociées par l'Union font soigneusement l'économie de toute réflexion sur les attributions et les missions des syndicats des travailleurs. Pourtant, tout le corpus législatif de l'Union a été fondé sur le choix de privilégier l'autonomie des partenaires sociaux dans la sphère sociale, puisqu'en vertu des traités européens, les partenaires sociaux sont libres de court-circuiter la procédure législative ordinaire et de négocier entre eux des accords cadres européens qui sont ensuite mués, si les partenaires sociaux le souhaitent, en directives sociales européennes. les principales confédérations syndicales en Europe plaident pour l'inclusion dans les accords européens d'un processus de règlement des différends applicables à la demande formelle des partenaires sociaux organisés au niveau européen, avec constitution notamment d'un comité d'experts indépendants. Mais cette perspective semble très hypothétique, et à ce titre, on peut déplorer que les accords européens traitent désormais conjointement et de manière parfaitement illisible des questions sociales et des questions environnementales, puisque les deux problématiques sont évoquées dans le même temps. C'est une démarche qui, à mon sens, nie le tripartisme qui est cher à l'OIT, et c'est une démarche qui ignore par ailleurs la particularité des compétences normatives attribuées aux partenaires sociaux en droit social européen. La place très modeste qui est réservée aux représentants des travailleurs dans la mise en œuvre des clauses sociales européennes mériterait sans doute d'être réévaluée et surtout mise en relation avec l'équilibre général des accords commerciaux très ambitieux qui vont lier dans les années à venir l'Union, les États-Unis au Canada. À ce titre, on a beaucoup déjà évoqué ensemble le chapitre 11 de l'ALENA, qui a institué un mécanisme de règlement des litiges investisseurs-État, la fameuse clause ISDS, qui permet aux investisseurs étrangers d'initier une procédure de règlement de litige devant une cour d'arbitrage contre les autorités de l'État où elles ont investi, avec des affaires retentissantes au Canada. On avait évoqué hier, je crois, l'affaire toujours pendante, Lone Pine Incorporation contre Canada. Et cette clause ISDS, elle est prévue dans l'accord entre l'Union européenne et le Canada, une clause qui ressuscite les spectres du projet très controversé d'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI, débattu dans l'enceinte de l'OCDE, puis abandonné, vous vous en souvenez, en 2008. L'accès aux procédures... En 99. L'accès aux procédures visées dans l'ALENA et dans l'ANACT se caractérise par cette asymétrie saisissante dont nous avons déjà parlé entre le sort réservé respectivement aux requêtes des travailleurs et à celles des investisseurs. Le professeur Weiss en a parlé tout à l'heure. Là où les procédures de l'ANACT ne peuvent en rien modifier la situation juridique du travailleur ou de ses représentants, lésés par des pratiques sociales déloyales, la voie du procédé arbitral est ouverte assez largement aux investisseurs des États tiers qui exigeraient des dédommagements, compensations de réglementation, notamment à finalité sociale, qui remettraient en cause leurs intérêts. Alors l'Union, ce qui a beaucoup changé là en ce moment, c'est que l'Union dispose désormais d'une compétence exclusive en matière de politique d'investissement, au lieu et place des États membres, dont la plupart reconnaissaient, c'est vrai déjà, l'investisseur, la possibilité d'intenter de telles actions, mais par le biais d'accords d'investissement bilatéraux. Il conviendra pour l'Union d'affiner une stratégie qui me semble encore assez balbutiante sur ce sujet-là qui est vraiment crucial, face à des groupes de pression très organisés. À ce jour, seul l'accord Union européenne-CARIFORUM de 2008 comporte une disposition dite maintien des normes, qui engage les parties à ne pas encourager les investissements directs étrangers en rendant moins strictes leur législation en matière de travail ou en assouplissant les normes fondamentales du travail de l'OIT. Peut-être une entente transatlantique est concevable sur ce sujet avec une incorporation des normes de travail dans les chapitres des ALE consacrés aux investissements. Parce que les accords d'investissement bilatéraux et séparés qui lient les États-Unis se distinguent depuis longtemps déjà par une référence au respect des normes de travail internationales. Donc peut-être une entente transatlantique est possible sur ce sujet-là. Mais pour l'Union européenne, la vigilance devra en tout cas être de mise sur la substance de la clause ISDS, sur les normes de protection visées et sur l'articulation de cette clause ISDS avec le volet développement durable de l'accord, afin que les États ne renoncent en aucune manière ni ne dérogent à l'adoption de législations internes protectrices se rapportant au travail et au droit social. Je vous remercie.